que nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bienvenue à toutes et à tous à l'écoute du programme en français de Radio Prague qui vous est présenté aujourd'hui par Magdalena Hrozinková. Le célèbre poète allemand Johann Wolfgang Goethe et ses séjours en Bohème, le tchèque du bout de la langue et tout de suite la restauration des films. Voilà le menu que nous vous proposons ce samedi sur Radio Prague. On commence par le cinéma avec Anna Kubeshta.
Culture sans frontières. Anna Kubeshta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture sans frontières. On retrouve aujourd'hui Jeanne Pommeau, une Française installée à Prague depuis 8 ans, qui travaille aux archives nationales du film à Prague dans la section restauration. Avec elle, nous avons évoqué le travail de restauration, la problématique numérique analogique et les séminaires d'histoire du cinéma donnés par le cinéma Bonrepo à Prague. Mais avant tout cela, Jeanne est revenue sur les différents sites des archives nationales du film. On l'écoute.
Oui, alors c'est disséminé dans Prague et aux alentours de Prague, parce que donc à Prague, nous avons donc dans la rue Bartholomiejska le cinéma Bonrepo et les bâtiments où il y a se trouve la bibliothèque, le département économique et l'édition et la théorie du film. Voilà, donc ça c'est un bâtiment. Ici on est à Malechitska, donc à Jichkov. C'est là où se trouve le directeur, une partie du département technique et le département des historiens où je me trouve. Donc en fait, ici on reçoit les films qui vont être envoyés, par exemple dans les cinémas. Ils sont contrôlés au département technique. Les historiens peuvent consulter les films pour pouvoir gérer le catalogue des films. C'est un autre bâtiment. Ensuite, en dehors de Prague, nous avons deux dépôts. Un dépôt avec des films nitrates et un dépôt où se trouvent les films qui sont dits de sécurité, c'est-à-dire les films en polyester et en acétate. Il y a deux dépôts selon les films qui sont inflammables et les films non inflammables.
Alors évidemment, archive, ça veut dire dépôt, ça veut dire restauration, ça veut dire aussi, je pense, analyse. Enfin voilà, puisque vous dites qu'il y a des historiens donc qui cataloguent ou qui écrivent des résumés comme vous. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en gros, c'est un peu l'équivalent de la Cinémathèque française? Est-ce que vous pourriez un peu juste délimiter un peu toutes les tâches, quelle est un peu la vocation justement des archives nationales du film en République tchèque?
Alors les archives du film en République tchèque ont une vocation qui est plus proche, par exemple, des archives du film de Bois d'Arcy. D'une part. D'autre part, nous avons aussi un cinéma, donc nous sommes aussi une cinémathèque, mais contrairement à la Cinémathèque française, qui est quand même une association au départ, nous sommes une institution d'État. Nous nous occupons donc en priorité du cinéma national tchèque. C'est vrai pour la préservation et pour le catalogue. Ça ne nous empêche pas d'avoir une collection importante de films étrangers. De manière générale, on ne peut pas donc comparer l'institution même des archives du film avec ni la Cinémathèque française, qui a vraiment une vocation prédominante de programmation. Et on est vraiment plus proche, j'allais dire, des archives du film de Bois d'Arcy, tout en ayant une Cinémathèque aussi. Donc en fait, on combine.
Alors, vous êtes française, est-ce que justement votre travail ici aux Archives nationales du film, est-ce que vous occupez notamment d'un fonds français ou est-ce que votre éventail d'activités est beaucoup plus large?
Alors, au départ, mon travail ici, c'est d'abord la restauration du film. C'est ma formation, c'est pour ça que je suis là. Et évidemment, je participe, comme les autres historiens, au catalogue, à la base de données des films de la collection. C'est important évidemment parce que un film qui n'est pas classé n'est pas un film utilisable, n'est pas un film archivé. Donc je m'occupe de la collection du cinéma documentaire français et du cinéma japonais ainsi que du cinéma africain.
Vous dites qu'en effet, votre formation première, c'est la restauration. Entre le moment où vous avez fait vos études et aujourd'hui, quelle est un peu l'évolution de votre métier? Je suppose que c'est quelque chose peut-être qui va assez vite avec l'évolution des techniques. Est-ce que vous avez vu des changements radicaux durant, disons, en gros, ces 10 dernières années?
Alors, disons que pour la préservation du film, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la numérisation des films n'est pas une solution de préservation. Tout simplement parce que un disque dur, ça va durer 5 ans, 10 ans, alors qu'un film, 35 mm en polyester va durer environ 200 ans. 100 ans, mais 200 ans, on peut prévoir, on peut espérer.
C'est énorme 200 ans.
Ça fait une grosse différence avec le disque dur.
Qui peut cracher aussi d'ailleurs.
Voilà, qui peut très bien ne pas durer 10 ans. Et évidemment, pour une question de coût totalement différente, puisque changer, transférer les informations tous les 10 ans sur un nouveau matériel, parce qu'évidemment, ce qui est notre disque dur actuel, dans 10 ans sera autre chose, c'est évidemment un coût énorme. En ce qui concerne la restauration, la numérisation, on ne fait pas encore de restauration numérique. C'est dommage d'un certain point de vue, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut faire qu'en numérique. Ça, c'est dommage, mais c'est-à-dire que, par exemple, il y a des... Alors, c'est un peu difficile à expliquer à la radio, parce qu'il faudrait que je vous montre sur des images, évidemment. Mais il y a des traces que l'on ne peut pas effacer, les traces du temps qu'on ne peut pas effacer de manière analogique. Par exemple, des rayures. Par exemple, des crashs au niveau du son. On ne peut pas les effacer analogiquement. Donc, de ce point de vue-là, c'est dommage. Mais il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut faire en analogique, que l'on ne peut pas faire en numérique. Donc, le numérique n'enlève pas la part analogique du travail de restauration, de toute façon. C'est-à-dire que pour qu'un film soit scanné, il faut de toute façon que le matériel soit restauré pour qu'il puisse passer dans la machine. Il faut qu'un nettoyage soit fait au préalable, etc. Donc il y a tout un travail de restauration mécanique. Donc moi je suis pas technique, hein, mais il y a toute une phase de restauration mécanique qui ne peut pas se faire de toute façon par le numérique.
Alors justement, récemment, c'était en septembre 2010, à l'occasion de la Saint-Venceslas, il y a un film qui est ressorti, un film de 1929 qui s'appelle Saint-Venceslas, qui est donc consacré au Saint-Patron des Tchèques. C'est un vieux film, un film muet, qui a été entouré en plus d'une certaine polémique à l'époque, etc. Il a été projeté au public pragois, tchèque, dans la salle du Rodolfinum à l'occasion de la fête nationale. Alors ça, c'était un film qui a été restauré par vos soins ici aux Archives nationales.
C'est effectivement ma collègue Blagena Urgochikova et ma collègue Ingrid Tietzkova qui ont restauré ce film. C'est un des premiers films qui a été restauré. Je pense que encore avant qu'elle le restaure, je crois qu'il a été d'abord restauré par son réalisateur qui travaillait ici aux archives et qui donc a participé à la restauration du film. Ça peut aussi poser des problèmes quand le réalisateur se mêle de la restauration du film parce qu'évidemment, on a toujours envie d'améliorer le travail que l'on a fait avant et difficile après de savoir...
Quelle est la patte du réalisateur ou du restaurateur?
Tout à fait. Difficile de savoir si le réalisateur a réalisé son film en 1929 ou en 1970.
Combien de temps dure la restauration d'un film? C'est difficile à évaluer?
C'est extrêmement long parce que ça demande de regarder toutes ces copies, tous les négatifs que l'on peut avoir. C'est de manière très précise chaque plan. Il faut, ça demande une certaine organisation évidemment, mais ça demande surtout donc de beaucoup de temps pour regarder, noter ces films, ensuite analyser, trouver des traces archéologiques dans le film pour savoir quel est le matériel le plus vieux, le plus ancien, qui est celui qui est le plus proche du film qui a été projeté le jour de la première. C'est le plus difficile. C'est ce qui prend le plus de temps. Une fois qu'on a fait ça, j'appelle ça un travail de secrétariat parce qu'il faut noter, faut tout noter, il faut tout noter chaque plan. Ça prend un temps énorme, 1 an, 2 ans. Parce qu'on, évidemment, on ne fait pas 40 heures par semaine de restauration. Donc, on fait ça 2 fois par semaine. Donc, évidemment, ça prend beaucoup de temps. Mais en plus de ça, après, donc, il faut analyser tous ces documents, décider de ce qu'on va faire. Parce que la plupart du temps, on ne sait pas exactement à 100% comment était le film. Donc, il faut évidemment, à côté de ça, beaucoup étudier les documents d'époque. Alors, ici, aux archives, on a la chance que ça soit assez centralisé, c'est-à-dire qu'on a une bibliothèque avec beaucoup de documents d'époque, la possibilité aussi de regarder sur la bibliothèque numérique par Internet les documents, mais aussi sur place. En voyant les documents d'époque, on peut vérifier qu'effectivement, le film était bien comme ceci et non pas comme cela. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on copie tous les documents, on envoie les documents au laboratoire qu'on a besoin de copier et on fait une nouvelle copie. Parce qu'on ne coupe pas dans les matériaux originaux. Hein. Parce qu'on a la chance extrême, justement, au cinéma, de pouvoir restaurer en copiant et non pas en ne touchant pas au matériel original. Contrairement au tableau où là, on est obligé de... On touche à l'œuvre, mais pas au support, en fait.
J'aimerais juste parler de Pondrepo, le cinéma qui se trouve donc dans la rue Bartolomejska, comme vous disiez, au centre de Prague. C'est alors évidemment un lieu extraordinaire pour tous les cinéphiles, hein, puisque tous les jours, toutes les semaines, toute une programmation justement de films qui finalement ne passent jamais dans la plupart des cinémas grand public. Hein. Enfin là, il suffit de regarder le programme du mois de janvier, il y avait le Jeanne d'Arc de Dreyer. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'ils proposent des sortes de séminaires, c'est-à-dire qu'on peut s'abonner. Alors c'est pour les gens qui parlent tchèque, hein, évidemment, à des séances en fait de cinéma. C'est tous les mardis après-midi. C'est une espèce de cycle en fait, qui projection de cinéma plus commentaires d'historiens qui accompagnent après la projection le film. C'est vraiment tout un travail en gros d'instruction de transmission justement de connaissances.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est ça fait 3-4 ans que l'on fait ça, je pense, si je me souviens bien. Et c'est donc le cours d'histoire du cinéma. C'est toute l'année scolaire, en fait. Au départ, c'était prévu en part... Au départ, c'était prévu pour les lycéens. Et puis, nous avons décidé d'ouvrir les portes à qui avait envie de venir. Donc, le principe est donc de montrer des films importants de l'histoire du cinéma avec un commentaire de l'historien qui s'occupe de cette collection-là, justement dans notre département. Donc c'est tous les mardis après-midi et c'est vrai que évidemment c'est en tchèque, voilà, donc le public francophone ne pourra pas y participer, mais je pense que c'est une chose importante des archives vers le public. C'est pour ça qu'on est à la fois cinémathèque et archives, mais c'est vrai que ces films-là, c'est important pour nous de les montrer à Pondrepo parce que pour certains d'entre eux, nous n'avons qu'une seule copie. Nous ne pouvons pas les prêter à des festivals. Nous ne pouvons pas, parce que pour des raisons de préservation, nous ne pouvons pas les prêter. Donc, nous devons les montrer. Et ça, c'est l'esprit de Pondrepo, c'est-à-dire à Pondrepo, c'est le seul endroit en République tchèque où les films qui sont préservés aux archives mais qui n'ont qu'une seule copie peuvent être montrés. On ne peut pas prêter ces films-là. Les autres films, quand on a 2-3 copies, on peut les prêter. Mais quand on n'a qu'une seule copie, on ne peut que les montrer à Pondrepo. Donc on doit les montrer à Pondrepo. C'est très important. Un film qui est archivé, qui est dans un dépôt à Hradisko, ça ne sert à rien. Parce que justement, c'est une œuvre qui a besoin d'être projetée. Ça ne peut pas être une bobine de film morte sur une étagère. Il faut que ça soit montré. Pondrepo, c'est essentiel pour les archives.
Si C'était Jeanne Pomou, une Française qui travaille aux archives nationales du film à Prague. Nous vous avons proposé une rediffusion de l'entretien que Jeanne Pomou a accordé à Anna Kubishta au début de cette année. Le tchèque du bout de la langue est aujourd'hui consacré au mot « baba ». Nous vous expliquerons avec Guillaume Narguet sa signification.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Une de nos dernières émissions avait été consacrée à ce que les Tchèques appellent le
Babí léto,
littéralement l'été des bonnes femmes, dans les faits une arrière-saison marquée par une météo encore estivale, comme on l'apprécie dans cette région du monde, c'est-à-dire ensoleillée et agréablement chaude. Nous avions expliqué pourquoi cet été en automne était comparé à l'été de bonnes femmes vieillissantes. Cet été des bonnes femmes étant malheureusement bel et bien terminé, nous allons donc pour cette fois nous intéresser aux femmes tout court, plus précisément au petit mot
« baba »,
un mot riche de sens comme nous allons le découvrir. Signé Ivan Mladek, la chanson
« Zla baba »,
littéralement « ma méchante bonne femme », décrit la vie d'un homme marié, malheureux de sa vie de couple. Sa méchante bonne femme n'aime pas en effet quand il regarde le hockey.
Baba ma nerada, když koukám na hokej.
Elle n'aime pas non plus quand lui apprécie un cigare.
Baba ma nerada, když bafám čibuka.
Ou boit une petite liqueur.
Baba ma nerada, když piju kořálku.
Quand il roupit avec les chaussures aux pieds.
Baba má nerada, když chrápu obutej.
Et encore moins quand le pauvre feuillette et lit tranquillement Playboy.
Baba má nerada, když já čtu Playboy.
Dans la petite mise en scène préparée pour l'interprétation de la chanson, cette fameuse
Zla baba,
méchante bonne femme, apparaît comme on imagine en France la femme que l'on appelle péjorativement bobonne. La bobonne est une femme au foyer d'abord intéressée par les tâches ménagères, une femme pas trop belle, mal foutue, une femme avec laquelle un homme a pourtant un jour fait le choix curieux de vivre alors qu'il savait qu'elle le forcerait pour le reste de ses jours à faire le contraire de ce qu'il a envie de faire et qu'il le ferait pour ne pas la contrarier et surtout ne pas se faire engueuler. Bref, en tchèque, une
baba
est l'équivalent d'une bobonne avec tous les traits négatifs que l'on peut imaginer. Mais ce mot
« baba »
peut désigner plusieurs personnes de sexe féminin à la fois, et donc pas seulement une bobonne dans le sens péjoratif. D'abord, et comme en Belgique, il peut également désigner une bobonne, mais une autre bobonne, avec cette fois une connotation familière et affectueuse. En Belgique, en effet, le mot « bobonne » peut être le nom donné à une grand-mère. En République tchèque, cette bobonne, que l'on aime bien, s'appelle alors la
baba.
Un petit mot qui peut nous faire penser qu'il s'agit d'un diminutif de
babička,
la grand-mère. Un petit mot qui possède cependant son propre diminutif, quoique curieusement plus long d'une lettre, il s'agit alors de
babka.
Là aussi donc une femme déjà d'un âge avancé, une mémère en quelque sorte. Mais le mot
baba
peut aussi être employé pour désigner une femme qui sera tout le contraire d'une bobonne, qu'elle soit méchante bonne femme ou gentille grand-mère. En argot, et ce en tchèque comme en slovaque, une
baba
peut en effet être une belle jeune femme, une fille attirante, une fille attractive.
Attractivni baba.
Comme disent parfois les tchèques. Nettement moins attractives, en revanche, sont le plus souvent les
Heiselbabe.
Les femmes de ménage chargées de la surveillance, du bon fonctionnement et du nettoyage des toilettes installées dans les lieux publics, et auxquelles vous devez donner 5 ou 10 couronnes au moment d'entrée selon la nature de votre besoin urgent. Là aussi,
Heiselbaba
est un mot d'argot puisque traduit littéralement, il s'agit de la bonne femme des chiottes. En français, on parlera plutôt, et ce de façon quand même plus élégante et délicate, de Madame Pipi. D'un autre côté, il suffit d'avoir été contraint de se rendre quelquefois dans les toilettes, par exemple des gardes tchèques, pour comprendre que l'on peut difficilement parler d'autre chose que de
Heiselbaba.
Ma baba, yes, la baba. Voilà, c'est donc avec la Madame Pipiček, mais en pensant plutôt au
Attraktivní babi
que s'achève ce tchèque du bout de la langue. On se retrouve dans 15 jours pour d'autres découvertes tout aussi indispensables sur l'usage de la langue tchèque. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Mějte slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj. Mais on ne se quitte pas encore, puisque dans sa rubrique littéraire, Václav Richter vous parlera de Johann Wolfgang Goethe et de nombreux séjours que le grand poète allemand a fait en Bohême.
Rencontre littéraire. En juillet 1785, Johann Wolfgang Goethe arrive pour la première fois en Bohême. Le célèbre poète n'a que 36 ans, mais sa santé est déjà capricieuse et il décide de faire une cure dans la célèbre station thermale de Karlovy Vary, Karlsbad. Il ne sait pas encore que c'est le début d'une longue série de séjours curatifs qui lui feront passer en Bohême au total 1114 jours, donc presque 3 ans, et qui l'attacheront à la Bohême par d'innombrables liens aussi subtils que solides. C'est à ce rapport fructueux entre un génie et une région qu'est consacré le livre de Johannes Urgigil intitulé « Goethe en Bohême ». La première version allemande de ce livre paraît en 1932, mais la traduction tchèque de cet ouvrage substantiel se fera attendre très longtemps et ne paraîtra qu'en 2009. Jeune homme, homme dans la force de l'âge et vieillard vénérable, c'est à tous les âges de sa vie que Goethe viendra en Bohême pour y chercher la santé, les beautés naturelles, les inspirations littéraires et picturales, les objets de ses recherches scientifiques et aussi une bonne société dans laquelle ne manquent pas même des têtes couronnées. C'est en Bohême que le poète rencontrera aussi quelques femmes qui laisseront une empreinte profonde dans sa vie. Nous pouvons dire, en exagérant à peine, que ces 17 séjours en Bohême lui permettront d'assouvir temporairement presque toutes les exigences de sa soif de savoir. Au début du XXe siècle, l'écrivain tchèque de langue allemande Johannes Urgigil décide de réunir tout cela dans un livre qui paraîtra en 1932 aux éditions Hans Epstein à Vienne. Ce n'est cependant que l'ébauche du texte définitif, dont la gestation prendra encore une trentaine d'années. Selon Václav Peterbock, éditeur de la traduction tchèque de l'ouvrage paru en 2009 aux éditions Pistorius et Olshanska, l'effort de présenter la matière de son livre dans son plus large contexte rapproche Urgigil de Goethe lui-même, car le poète cherchait lui aussi à voir les choses dans leur complexité.
Goethe a vraiment cherché à saisir l'ensemble de la problématique qu'il appelle « das böhmische Ganzes », ce que nous pourrions traduire comme « la totalité tchèque ». Il abordait cette problématique en tant qu'historien de la culture, intéressé par les activités littéraires d'une région, son histoire, les sciences naturelles, la géologie, la minéralogie, la botanique, l'ethnographie. En gros, Urgigil voyait en Goethe une espèce de son double à cause de l'ampleur et de la variété de ses intérêts et il voulait, lui aussi, saisir l'ensemble de ces thèmes. C'est pourquoi la création de son livre a pris beaucoup de temps et a été assez compliquée. Et c'est pourquoi il y a une telle différence entre sa première version de 1932 et les versions postérieures datant du début des années 60. Johannes Urgigil divise son livre en 7 parties. Dans la première, il relate avec une grande richesse de détails les 17 séjours du poète à Karlovy Vary, à Teplice et dans d'autres localités tchèques. Une partie du livre est consacrée aux 3 femmes que le poète a fréquentées en Bohême et qui ont joué, chacune à sa manière, un rôle important dans sa vie. L'auteur évoque d'abord Mariana von Eibenberg,
une belle berlinoise très intelligente qui est devenue amie intime du poète. Un chapitre est consacré à l'impératrice autrichienne Marie Ludovica, qui a témoigné à Johann Wolfgang beaucoup d'amitié et de sympathie. Et l'auteur ne peut pas passer sous silence le dernier grand amour de Goethe, Ulrike von Löwetzow, une jeune fille qui a fait naître dans le cœur du poète septuagénaire un espoir de bonheur et qui, en refusant sa main, l'a plongé dans une déception amère. Les parties suivantes du livre évoquent les paysages tchèques visités par Goethe, le milieu culturel tchèque, le reflet des séjours en Bohême dans l'œuvre du poète, ses recherches scientifiques effectuées en Bohême et les répercussions de l'œuvre de Goethe dans le milieu tchèque. Pour l'éditeur Václav Peterbock, le livre est loin d'être une simple description d'une personnalité phénoménale dans un certain contexte, mais plutôt une œuvre d'art très particulière.
Uzidil skutečně v sobě jedinečně spojuje i odborníka.
Uzidil réunit en lui d'une façon bien particulière un chercheur, un historien de la littérature et un artiste de la parole. Il se délectait littéralement en juxtaposant différents niveaux stylistiques du texte, que ce soit des écrits de Goethe lui-même ou les lettres qui lui ont été adressées. Il se délectait à décrire d'un ton légèrement ironique et parfois même avec un petit penchant pour l'exagération, les passions culinaires de Goethe, son intérêt pour la minéralogie, ses relations avec la société des stations thermales. Son texte a également de grandes qualités littéraires. Cependant, il faut le lire sans se presser, à petite dose. Ce n'est pas un texte à lire sans interruption, mais je pense que grâce à ses qualités littéraires considérables, il peut trouver des lecteurs même aujourd'hui.
Et Václav Peterbock de constater que cette approche du géant de la littérature, le ton amusé et amusant de certains chapitres, trouve un appui dans l'œuvre de Goethe lui-même.
Goethe n'était certes pas un classique de plâtre ou de marbre, bien qu'il soit parfois considéré comme tel et que lui-même ait voulu quelquefois se présenter de cette façon. L'humour, l'ironie et l'autodérision ne lui font pas défaut. Nous les retrouvons dans sa correspondance, dans ses poèmes et dans ses aphorismes dans lesquels il se plaint avec humour, par exemple, des mauvais services dans certains établissements thermaux ou dans lesquels il ironise sur sa situation momentanée, ses problèmes de santé et son état psychique. Dans ce sens, Goethe était, j'ose dire, un homme complet. Il s'ouvrait avec convoitise au milieu tchèque dans lequel il vivait. Il le considérait comme un milieu qui l'enrichissait, qui l'inspirait, mais vis-à-vis duquel il a su garder aussi une certaine distance, un certain recul dans le sens positif du terme.
Selon Václav Peterbock, bien que Goethe n'ait jamais visité les territoires habités majoritairement par la population tchèque, il en était bien informé grâce à ses lectures, mais aussi grâce à ses contacts et à ses relations. Il souligne que Johannes Uzidil ne voulait pas écrire une étude spécialisée sur les séjours de Goethe en Bohême de l'Ouest et du Nord. Cela aurait été évidemment possible, mais il cherchait quelque chose de plus. Il ambitionnait de faire revivre dans sa plénitude l'image de Bohème allemande disparue depuis longtemps, ses beautés naturelles, son milieu culturel et ses rapports avec l'ethnie tchèque.
A právě tyhle ty ambice Uzidilovi
Et justement, cette ambition d'Uzidil de mettre en relief ce milieu avec toutes ses couleurs et ne pas se limiter à une description statique des séjours de Goethe en Bohême donne un grand intérêt à ce livre qui peut, dans une certaine mesure, suppléer un ouvrage sur l'histoire culturelle de Bohême du Nord-Ouest des premières trois décennies du XIXe siècle.
Chers auditeurs, c'est par cette rencontre littéraire présentée en rediffusion que prend fin le programme de Radio Prague en langue française. Magda Hrozinková vous remercie de votre attention. À demain.
Radio Praga con...